France Culture.
Et tout de suite, on fait le point sur l'information. C'est le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. La marche pour demander justice pour Quentin Derangs, ce militant d'ultra-droite mort des suites de ses blessures après une rixe contre des antifascistes, se tiendra bien demain à Lyon. Le ministre de l'Intérieur a déclaré ce matin qu'il ne s'y opposerait pas, en dépit donc des craintes formulées par plusieurs élus responsables associatifs qui redoutent des violences de la part des groupes identitaires. On tâchera par ailleurs de déchiffrer ce qui se cache derrière le bénéfice annuel en très net recul annoncé ce matin par le géant de l'électricité EDF. À suivre également des expulsions de jeunes qui font polémique en Suède. Et puis avec notre invité aujourd'hui, on fera le point sur la situation militaire de plus en plus explosive autour de l'Iran. Mais pour commencer, une décision de justice rarissime en France. Nouvelle étape dans un parcours procédural décidément chaotique. La cour de révision a été saisie des cas de Raymond Miss et Gabriel Thiénot, près de 80 ans après un meurtre pour lequel les deux hommes avaient été condamnés. Les juges devront se prononcer dans un nouveau procès sur une demande de réhabilitation posthume. En 1947, les deux jeunes chasseurs âgés respectivement de 21 et 20 ans au moment des faits avaient avoué le meurtre de Louis Boistard avant de se rétracter, et il n'avait ensuite, Florence Turme, jamais cessé de clamer leur innocence.
Oui, car leurs aveux avaient été recueillis sous la torture au cours de leurs 9 jours de garde à vue, durant lesquels ils ont subi de terribles sévices, dénonce Thierry Thiénot, le fils aîné de Gabriel Thiénot.
La torture a été pratiquée pendant une semaine, nuit et jour, dans la mairie de Mézières-en-Brenne, à l'initiative de deux commissaires de police qui n'en avaient que le, on peut pas appeler ça des commissaires de police puisque c'était, le commissaire Darrow était ni plus ni moins un ancien pétainiste. Les restants de la Gestapo, ils les avaient bien en main. Mon père, ses camarades ont eu à subir la prière des juifs, les petits bâtons qu'on met dans les doigts et puis après on serre. Tout nu sur des règles en fer, des sodos pour les réveiller, pendus dehors en pleine nuit et en plein hiver puisque c'était l'hiver, sur la mairie de Mézières-en-Brenne. Tout le monde entendait les cris.
Raymond Miss et Gabriel Thiénot, condamnés à 15 ans de travaux forcés en 59, puis graciés 4 ans plus tard. Ils sont décédés tous les deux, mais leur famille et leur comité de soutien n'ont eu de cesse d'obtenir leur réhabilitation. Pas moins de 7 requêtes en révision. Il a fallu attendre 2021 et un amendement de la loi pour la confiance judiciaire afin de permettre l'annulation de ces aveux, qui ouvrent donc la voie à un nouveau procès, sans témoins, sans accusés, mais essentiel pour Thierry Thiénot.
Bien sûr que c'est important, il y a des gens qui vous disent « après tout ce temps, qu'est-ce que ça va faire de plus ?» Mais c'est ça qui est très important, que la justice soit faite une bonne fois pour toutes et qu'ils soient enfin réhabilités. Ça en va de leur honneur et du mien, et c'est faire honneur aussi, je pense, à la justice française d'avoir à revenir sur une affaire phénoménale.
La cour de révision, composée uniquement de magistrats professionnels, devrait se réunir dans les prochains mois pour fixer la date de cette audience exceptionnelle.
La marche de l'ultra-droite en hommage à Quentin Derangs aura bien lieu demain à Lyon.
Au lendemain de la mise en examen de 7 personnes dans l'enquête sur la mort du jeune militant d'extrême droite, le ministre de l'Intérieur a annoncé ce matin qu'il ne s'opposerait pas à cette manifestation, contrairement donc à la volonté du maire écologiste de la ville, Grégory Doucet, lequel réclamait son interdiction en raison de risques avérés de troubles à l'ordre public. Noah Marché, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour tout le monde.
Laurent Nunez a assuré que ce rassemblement serait encadré par un dispositif policier extrêmement important, et il s'est justifié, Noah, en estimant que pour l'instant, je le cite, la liberté était plus importante que l'inquiétude.
Oui, 2000 à 3000 militants d'ultra-droite sont attendus à Lyon sur un cortège d'1,4 km. Certains viennent même de pays voisins comme l'Italie, la Belgique ou l'Allemagne. Face à eux, 1500 opposants, des militants d'ultra-gauche qui pourraient s'inviter, des risques de dégradation donc, mais aussi d'affrontements. Pourtant, le ministre de l'Intérieur a décidé de ne pas interdire la marche. Laurent Nunez l'a expliqué sur RTL ce matin.
Je suis le garant de l'ordre public et aussi je protège la liberté d'expression. Donc voilà, je ne peux interdire une manifestation quand il y a des risques majeurs de troubles à l'ordre public et que je ne suis pas en mesure de le contenir. Et donc je ne demande pas l'interdiction de ce rassemblement.
L'idée, c'est aussi de ne pas interdire la manifestation pour maîtriser son parcours, ses horaires et pouvoir l'encadrer, d'après une source policière qui ajoute « On sera vigilant sur les propos et les actes répréhensibles des manifestants ». Laurent Nunez n'a pas donné de détails sur le nombre de policiers et de gendarmes, mais il promet une forte mobilisation des forces de l'ordre.
Il y aura des renforts en nombre conséquent, composés à la fois d'effectifs locaux, puis aussi de forces mobiles, forces de l'ordre qui rayonneront évidemment à la périphérie de ce cortège pour éviter tout trou à l'ordre. l'ordre public et toute provocation.
Et des groupes d'ultra-gauche lyonnais appellent en tout cas à ne pas laisser la rue à l'ultra-droite. Une pétition a aussi été lancée contre ce cortège, avec plus de 16 000 signatures d'habitants, d'élus et de responsables associatifs. Ils redoutent des violences des groupes identitaires. Les appels au calme se multiplient, à commencer par l'organisatrice de la marche, mais aussi les parents de Quentin de Ranque.
Merci Noa Marchais. Et puis j'ajoute que dans ce climat très tendu, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, toujours en quête de dédiabolisation de son parti, a lui intimé l'ordre ce matin à ses cadres de ne pas se rendre aux hommages ni d'y associer le parti à la flamme.
EDF dévoilait ce matin ses résultats annuels à l'orée d'une année 2026 pleine de défis pour l'entreprise publique.
Oui, à l'aube, en l'occurrence, de très lourds investissements dans la relance du nucléaire en France. Le géant de l'électricité voit son bénéfice net en recul de plus de 26% en 2025, affecté notamment par la baisse des prix sur les marchés. Camille Magnard, bonjour.
Bonjour Thomas.
En réalité, ces mauvais résultats sont à relativiser. Pourquoi ? D'une part, parce qu'ils font suite à une année record en 2024 et d'autre part, même en recul, le bénéfice net du groupe s'établit encore à près de 8,5 milliards d'euros.
Oui, ça fait 3 milliards de moins que l'an dernier tout de même, mais les résultats restent solides selon le PDG Bernard Fontana. Il insiste surtout sur ce qu'il appelle la remontada, l'augmentation de la production d'électricité par les centrales nucléaires françaises qui tournent à plein régime. Ce n'est sans doute pas pour rien d'ailleurs dans le fait que les prix sont bas en ce moment, vous l'avez dit, sur le marché. Mais pour expliquer la baisse du bénéfice net d'EDF, il faut aussi parler des surcoûts, des retards qui s'accumulent sur le chantier des réacteurs EPR d'Hinkley Point au Royaume-Uni. Un chantier emblématique pour EDF à l'étranger qui devait coûter 18 milliards de livres au départ, mais la facture a quasiment doublé en 10 ans et ça plombe les comptes d'EDF de près de 2,5 milliards d'euros pour cette année. Pas forcément rassurant, me direz-vous, au moment où l'entreprise publique doit lancer les chantiers de 6 réacteurs EPR 2 en France avec un mur d'investissement de 72 milliards d'euros à l'horizon. Pour convaincre ses créanciers de lui prêter l'argent nécessaire, EDF insiste sur le fait qu'elle a réduit sa dette de 3 milliards cette année. Il en reste tout de même 51 milliards. Forte de ses résultats tout de même, l'entreprise propose de reverser à l'État, son unique actionnaire, un dividende d'un milliard d'euros cette année, soit moitié moins que l'an dernier.
Merci Camille Magnard.
Midi et 37 minutes sur France Culture, la suite de votre journal Thomas Cluzel.
Un an seulement après sa victoire électorale, le chancelier allemand Friedrich Merz est déjà à la recherche d'un second souffle, même si sa réélection aujourd'hui à la tête de la CDU ne fait aucun doute. Il n'en reste pas moins affaibli par une popularité en berne. Les conservateurs lui reprochent un certain nombre de promesses non tenues pour relancer l'économie du pays miné, notamment par les droits de douane américains, mais aussi le prix de l'énergie. Alors pour sa défense, lui met en avant quelques succès, la reprise en main de la politique migratoire, une réforme pour muscler la défense nationale. Il se targue par ailleurs d'avoir replacé l'Allemagne au centre du jeu diplomatique international. Il n'empêche que son rendez-vous à Stuttgart, aujourd'hui avec les délégués de son parti, s'annonce tendu, d'autant que les conservateurs attendent également de leur chef un plan pour gagner plusieurs élections régionales prévues cette année, sous la pression de l'extrême droite.
Direction à présent la Suède, avec un exemple de plus du durcissement de la politique migratoire.
À la faveur d'une récente modification de la législation sur les permis de séjour, des centaines de jeunes, pourtant arrivés il y a déjà plusieurs années avec leur famille, sont désormais priés de quitter le pays. C'est même le cas aujourd'hui pour un bébé de 8 mois, Emmanuel, né en Suède, sur le point d'être expulsé vers l'Iran, seul, sans sa famille, et ce alors même que ses parents vivent et travaillent légalement sur place. Les précisions depuis Stockholm de notre correspondante Ottilia Ferré.
En Suède, le droit du sol n'existe pas. Les parents du petit Emmanuel, originaire d'Iran, déboutés de l'asile, ont obtenu un permis de séjour temporaire grâce à leur travail, ce qui permettait aussi à leur enfant de rester. Mais en 2025, le gouvernement a durci la loi et supprimé cette possibilité. Emmanuel n'a donc plus de base légale pour rester, malgré la présence de ses parents. L'affaire choque l'opinion, alors que ces derniers mois, des centaines de jeunes, devenus majeurs, ont été sommés de quitter le pays, comme Jomana, 18 ans, arrivé à 4 ans en Suède et aujourd'hui menacé d'expulsion vers l'Égypte, seul, sans sa famille.
Le 29 décembre, on m'a dit « Tu es adulte, tu te débrouilles toute seule, tu n'as pas de lien fort avec la Suède et tu pars dans 4 semaines. » Je ne savais pas si je devais rire ou pleurer parce que c'est une décision tellement bizarre. Comment pourrais-je ne pas avoir de lien fort après 14 ans ici, toute ma vie ici? Tout ce qu'on veut, c'est étudier, travailler. On ne vient pas pour causer des problèmes. Devenir majeur en Suède, pour beaucoup, c'est devenu une condamnation.
Son amie Mélanie, qui l'accompagne, fait un parallèle avec la situation aux États-Unis.
C'est un peu devenu un genre de ice à la suédoise.
Si Jomana se veut positive, son avenir, elle a désormais beaucoup de mal à l'envisager.
Je voudrais enchaîner des études tout de suite et entrer dans le monde du travail. Mais là, pendant cette période d'attente, je ne peux rien faire. Je ne peux pas travailler, je n'arrive pas à dormir la nuit et je ne peux pas me concentrer sur quoi que ce soit.
Jomana a fait appel de cette décision et garde espoir de pouvoir rester en Suède et de passer son bac au printemps prochain.
C'est un événement politique majeur en Corée du Nord.
Ce matin, le dirigeant autocrate de la Petite République recluse a ouvert le 9e congrès quinquennal du Parti des travailleurs au pouvoir, lequel sert généralement de tribune au régime pour présenter ses priorités, en particulier en matière nucléaire. Par ailleurs, les parades militaires qui accompagnent traditionnellement l'événement sont souvent l'occasion pour Pyongyang d'exposer au reste du monde ses armes les plus récentes et les plus puissantes. Enfin, une attention plus particulière sera portée cette année à la question de savoir si la fille de Kim Jong-un, considérée comme sa probable successeur, se verra attribuer un titre officiel. Après quasiment 4 années de guerre ininterrompue en Ukraine et face à l'obstination du maître du Kremlin à mener jusqu'au bout sa guerre d'invasion impérialiste, certains pays s'inquiètent de leur sort et plaident de plus en plus pour la création d'une ligne de défense aux frontières avec la Russie et la Biélorussie. C'est le cas en particulier de la Pologne qui, à partir d'aujourd'hui, a choisi de relancer sa production de mines antipersonnelles, désormais qu'elle n'est plus officiellement soumise à la Convention d'Ottawa qui interdit leur fabrication et leur utilisation. Les explications depuis Varsovie de notre correspondant Adrien Sarlat.
Les champs de mines, qu'on pensait enterrés avec la Seconde Guerre mondiale, pourraient bientôt réapparaître en Europe le long de la frontière polonaise. Le ministre de la Défense parle d'une nécessité pour la sécurité nationale.
La situation nous y oblige. La Pologne et ses voisins ne peuvent pas être limités par des conventions qui vont à l'encontre de notre politique de dissuasion ou de défense. Aujourd'hui, le rôle des politiciens est de dissoudre les corsets dans lesquels les militaires ont été enfermés. Et c'est ce que nous faisons.
Varsovie entendait déployer sa future production le long des 800 km de frontières qu'elle partage avec la Russie et la Biélorussie pour renforcer son bouclier oriental, censé protéger l'Europe et l'OTAN d'une invasion sur leur flanc est. Mais Julia Gwembotska, analyste chez Amnesty International à Varsovie, rappelle que 85% des victimes de ces mines sont généralement des civils et juge cette décision en inadéquation avec la menace.
Selon les spécialistes, la guerre entre la Pologne et la Russie, si elle devait avoir lieu, prendra plutôt la forme de combats hybrides avec des drones, ce qui signifie que ces mines ne trouveront aucune utilité sur le champ de bataille et pendant les prochaines années et les prochaines décennies, elles continueront d'être une menace pour les habitants des régions frontalières, car quand elles explosent, elles ne font pas la différence entre un soldat russe et un agriculteur polonais.
Une fois que le pays aura satisfait ses propres besoins, il n'exclut pas d'exporter sa production. La Lettonie a déjà fait